E-radio, l'invité de la rédaction, Lola Sotioye.
En Europe, une femme sur trois a déjà subi des violences physiques ou sexuelles, une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement sexuel et sept femmes meurent chaque jour sous les coups de leur conjoint ou d'un membre de leur famille. Alors qu'il y a quelques mois, le 1er juin 2023, l'Union a adhéré à la Convention d'Istanbul, une convention qui donne à l'UE un cadre général pour la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes, E-radio reçoit aujourd'hui Thomas Ferlet. Vous êtes le directeur de l'association strasbourgeoise Solidarité Femmes 67 et vous siégez également au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur qui datent de novembre 2023, il y a eu une hausse de 15% des violences faites aux femmes en France entre donc 2021 et 2022. Est-ce que cette hausse, vous la constatez vous aussi sur le terrain avec votre association ?
Oui, c'est quelque chose qu'on constate sur le terrain. Alors nous, on n'arrête pas de monter en charge par rapport à tous nos services, aussi bien sur l'hébergement d'urgence, sur l'hébergement d'insertion et sur l'accueil de jour. Donc on constate, alors je ne pourrais pas vous dire si nous, on augmente notre activité de 15% évidemment, mais en tout cas, on constate une montée en charge des activités de l'association. Ce qui nous inquiète plutôt parce que quand on regarde, c'est peut-être le revers de la médaille parce que finalement on en parle de plus en plus, beaucoup de départements, beaucoup de politiques publiques parlent de lutte contre les violences faites aux femmes et puis la réalité c'est que le phénomène il continue à croître.
Vous parlez d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences, est-ce qu'il y en a assez aujourd'hui pour pouvoir accueillir toutes celles qui en ont besoin?
Alors, sur le département du Bas-Rhin, on commence à avoir suffisamment d'hébergements d'urgence. En fait, le problème, c'est que après l'urgence, on fait quoi? Et certaines dames sont obligées de retourner au domicile du conjoint, d'autres restent des mois et des mois dans un hébergement, du coup, qui s'appelle plus hébergement d'urgence, puisqu'elles sont là depuis des mois, et on manque de logements d'insertion derrière. Il y a quelques années, on avait 3 jours pour réorienter une dame qui était sur un hébergement d'urgence, ce qui, en 3 jours, était complètement ahurissant, parce que la dame sort, elle est complètement sidérée par ce qu'elle vient de vivre. Au bout de 3 jours, on doit la mettre dans un coma. Aujourd'hui, on est sur un mois renouvelable, donc on a vraiment le temps. Donc, il y a vraiment des choses qui avancent dans la perception des choses. Mais en termes de moyens d'hébergement, d'urgence, etc., si on arrive à en avoir suffisamment, déjà, tous ne sont pas forcément bien localisés et c'est suffisamment sécurisé. Mais ça, on arrive quand même, on gère beaucoup mieux. Par contre, il manque après la suite. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'une dame est en hébergement d'urgence pour qu'elle ne reste pas des mois en hébergement d'urgence? Ça, c'est une vraie question.
Vous disiez qu'en termes de chiffres, il y a plus de femmes qui ont besoin d'aide. Mais est-ce que vous constatez aussi peut-être un changement dans les formes de violences qui sont exercées à leur encontre?
Il y a un changement des violences et surtout, il y a un changement de comportement des auteurs qui sont de plus en plus procéduriers, qui connaissent de plus en plus les lois, qui se regroupent dans des associations, SOS Papa ou autres, qui font effectivement du lobby pour, par exemple, imposer la résidence alternée, quand bien même ils sont reconnus auteurs de violences sur leurs femmes, mais aussi sur leurs enfants. Il y a une évolution, effectivement, des violences conjugales, tout à fait.
Quelles sont les principales problématiques auxquelles sont confrontées les femmes, justement, que vous accueillez, que vous accompagnez? Est-ce qu'on parle surtout de violences physiques ou aussi de violences économiques, voire administratives?
Alors, j'ai envie de dire que la violence psychologique, administrative, économique, elle est quasiment constante dans toutes les situations qu'on rencontre. Il n'y a pas forcément tout le temps de la violence physique, où celle-là intervient à des moments très précis dans la vie du couple. Hein, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est souvent au moment des départs, ou au moment des grossesses, ça reste un constat vrai. Ce qui reste aussi vrai, c'est que les violences administratives et économiques sont de plus en plus présentes. Ce qu'on constate aussi, c'est que l'argent, moi je dis souvent, l'argent silencie les violences, c'est-à-dire que plus on monte de catégories dans la catégorie socioprofessionnelle, plus les violences sont tues, parce qu'il y a un nom de quelqu'un qui est connu, parce que voilà, on ne veut pas salir le nom de la famille ou de monsieur, donc... ce qui n'est pas le cas dans les catégories socio-professionnelles inférieures. Ça ne veut pas dire que la violence n'existe que dans ces catégories-là. Ça veut simplement dire que la violence, elle traverse toutes les catégories socio-professionnelles. Mais une des problématiques qu'on voit, c'est que plus l'environnement dans lequel s'exerce la violence est un environnement où les familles sont lésées, plus on a du mal, nous, et les femmes ont du mal à venir nous trouver ou à se saisir des dispositifs d'aide parce qu'il y a une espèce d'omerta liée à la situation familiale, si on veut dire. Donc ça, ça évolue aussi. Et puis sur le type de violence, non, il n'y a pas de... Ah si, la cyberviolence, si. Ouais, la cyberviolence qui est, avec l'arrivée du smartphone, qui est devenue quasiment courante aussi. Alors, harcèlement SMS continu, ça n'existait pas avant, évidemment, puisque les smartphones n'existaient pas, les SMS n'existaient pas non plus. Tout ce qui est revenge porn, tout ce qui est diffusion de vidéos, qui ont été pris dans l'intimité du couple, des auteurs qui utilisent Internet pour faire valoir des droits de garde en mettant leurs enfants en avant. On a peut-être une situation, on a eu une situation, nous, là, dans le Bas-Rhin, où le juge a dû obliger monsieur, l'auteur des violences, à arrêter d'utiliser ses enfants qu'il mettait en scène sur un blog pour faire valoir son droit de visite, alors que c'est un papa qui a été reconnu auteur de violences et qui a même pointé des armes sur ses collègues, etc. Donc, c'est pas n'importe qui, mais l'utiliser ses enfants. Donc, voilà, donc la cyberviolence, l'utilisation d'Internet, aussi, dénigrer, dévaloriser les femmes sur leur page Facebook, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement prend de l'ampleur avec des logiciels de traçage, des logiciels qui sont mis dans les téléphones où monsieur est au courant de textos que madame envoie, etc. Donc nous, voilà, on découvre ces choses-là. Et ça, c'est une réalité, peut-être un petit peu plus que ce qu'on avait avant, effectivement.
À ce niveau-là, justement, à quel point vous accompagnez les femmes? Est-ce que c'est surtout au moment du départ du domicile? Est-ce que vous les aidez aussi dans les démarches juridiques?
Ah oui, en fait, nous, alors il y a le moment où elles partent, mais sachant que le moment où elles partent, ça ne signifie pas du tout la fin des violences. Il y a le moment où il y a la séparation physique, et après, il y a la séparation psychique qui dure des fois beaucoup plus longtemps. On l'accompagne sur l'ensemble des pans de sa vie, que ce soit la scolarité des enfants, sa formation, l'apprentissage de la langue française pour celles qui viennent d'un pays étranger et qui n'ont pas pu, à cause des violences et parce qu'elles étaient contrôlées, pouvoir apprendre le français, etc. Donc oui, on a vraiment tout un suivi qui touche aussi le suivi juridique. Effectivement, c'est vraiment l'accompagnement, il commence un petit peu avant, ensuite elle vient dans nos appartements et ensuite il continue sur l'ensemble des pans dont on a besoin.
Est-ce que vous avez le sentiment que ces derniers mois, ces dernières années, l'État prend davantage ses responsabilités dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Je pense par exemple à, depuis le 1er décembre, toute victime de violences conjugales peut contacter sa CAF pour obtenir une aide d'urgence d'un montant d'en moyenne 600 euros pour pouvoir quitter le domicile le plus rapidement possible. Est-ce que c'est une mesure que vous attendiez, qui est suffisante ou en tout cas qui va dans le bon sens?
Ce qui va dans le bon sens, c'est qu'on a pensé un certain nombre de dispositifs qui peuvent effectivement pallier à des manques, un trou dans la raquette. Par exemple, effectivement, la précarité économique d'une femme qui s'extrait des violences conjugales, elle est réelle. Et donc, que la CAF puisse venir en aide pour apporter une aide au départ, ça, c'est effectivement, il y avait un trou dans la raquette et c'est très bien. La question se pose sur, d'une part, les critères d'attribution, parce qu'on a vu, nous, pour avoir été en contact avec certaines CAF, on a vu des auteurs qui se disent victimes de violences, parce que madame s'est défendue, qui ont aussi reçu l'aide de la CAF. Donc déjà, ça commence à poser problème. Et ensuite, donc c'est sur les critères d'autorisation. Et puis, la deuxième chose, c'est qui génère et qui va faire vivre ces dispositifs. Parce que c'est comme les hébergements d'urgence. Je vous disais en début d'entretien que aujourd'hui, on commençait à avoir un nombre d'hébergements d'urgence qui commençait à faire qu'on pouvait répondre à toutes les sollicitations. Mais on a des gens qui ne sont pas du tout formés. Donc en fait, on va avoir des femmes qui vont être sur des hébergements d'urgence, sur un certain nombre de dispositifs que effectivement le gouvernement met en place, ça c'est indéniable, mais qui ne sont pas à bon escient et qui ne sont pas utilisés justement parce que les personnes qui les font vivre ne sont pas formées aux violences conjugales. On a par exemple sur la prise en charge des auteurs, ce qui moi me semble essentiel si on veut sortir des violences faites aux femmes, que les auteurs soient correctement pris en charge et qu'ils comprennent leur rôle d'auteur. Eh ben, en fait, on a encore aujourd'hui des associations de prise en charge des auteurs qui prônent la remise en couple, qui ne sont pas du tout au fait de ce que c'est le mécanisme d'emprise. Donc les dispositifs existent, je pense qu'il faut qu'ils existent et c'est très bien. Il manque un peu de moyens pour que ce soit vraiment quelque chose d'installé, mais c'est surtout la façon le manque de formation des personnes qui font vivre ces dispositifs qui aujourd'hui posent problème. Le point sur lequel effectivement il faut maintenant être très attentif, c'est la multiplication des dispositifs. Et de la façon dont on les nomme, ne fasse pas oublier que malgré tout, ça reste des violences masculines envers les femmes. C'est-à-dire que vous avez vu les derniers chiffres, hein, puisque vous m'avez cité 15%, dans cet infostat, vous avez 86% des victimes sont des femmes, 87% des auteurs sont des hommes. Quand on monte sur les violences sexuelles dans le couple, on a 98% des femmes qui sont victimes de violences sexuelles dans le cadre des couples. Ça ne veut pas dire que seules les femmes sont victimes de violences, évidemment, ça c'est clair, mais ça reste massivement quand même. Les premières victimes de violences qui sont massivement masculines. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de personnes victimes de violences conjugales, on va parler de violences intrafamiliales. Voilà. Et toute cette euphémisation-là, il faut y faire attention parce que ça reste un vrai problème de société.
Merci Thomas Ferlet, vous êtes, je le rappelle, le directeur de l'association strasbourgeoise Solidarité Femmes 67. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.